invite à prendre votre Bible dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée au chapitre 3. Nous allons continuer. Nous sommes en train de voir les qualifications des anciens et des diacres. Mais je veux souligner, je veux dire, à chaque fois que, excepté, je crois, la qualification qui consiste à être propre à l'enseignement, toutes les qualifications, tous les critères qui sont là concernent pas seulement les diacres et les anciens, mais tout enfant de Dieu, hein, dans le caractère et dans la manière de faire les choses. Alors, il n'est pas dit que tous les enfants de Dieu doivent obligatoirement, comme l'apôtre Paul dit à Tite, être capable de réfuter les fausses doctrines, etc. et tout ça. Mais tout ce qui est demandé ici, en fait, le caractère irréprochable et dans le caractère pour les hommes qui doivent être responsables de l'Église, nous concerne tous. Hein. Et donc nous devons regarder ces passages avec la plus grande attention. Nous avions considéré, donc je vais lire quand même avant de continuer les versets 1 à 7, encore une fois, 1 Timothée 3, versets 1 à 7, il dit « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut, alors notez le nombre de fois où il dit « il faut », hein, « il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. » Voilà, jusqu'à là, la lecture concernant les anciens, mais il y a des choses qui sont similaires, qui sont dites aussi pour les diacres. J'aimerais peut-être lire dans Tite, parce qu'il y a aussi Tite chapitre 1, Paul dit à peu près les mêmes choses à Tite chapitre 1 verset 5, il dit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville. » Et s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Jusque-là. Donc voilà un peu, on a le passage parallèle où il est question de ces critères. Donc nous avions considéré la dernière fois le fait d'être irréprochable, et puis aussi le fait d'être mari d'une seule femme. Donc, on ne va pas revenir là-dessus, mais je voudrais rester néanmoins. On ne va pas les faire tous un à un, chaque critère qui est ici, mais je vais laisser ce qui est écrit juste après mari d'une seule femme, c'est-à-dire sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. On y reviendra après. Et pour aller au verset 4, parce que bon, comme on a commencé avec Marie d'une seule femme, donc on reste dans le cadre familial, on pourrait dire, ici, hein, le verset 4 et 5 dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Alors ça, c'est quelque chose qui est important ici, et c'est un autre test, je crois, que l'Écriture nous donne lorsque l'on est sur le point de nommer des personnes. Il dit ici qu'il faut que l'ancien, celui en tout cas qui est potentiellement, hein, que l'on voit potentiellement comme un ancien, qu'il dirige bien sa maison. Donc le domaine familial est un domaine qui est important aussi à considérer. La conduite du foyer, et puis particulièrement ici, quand on lit bien ce passage, le rapport avec les enfants. Et donc l'apôtre Paul établit un parallèle entre l'Église de Dieu, qu'il appelle d'ailleurs la maison de Dieu, au verset 14, je crois, ou 15, verset 15, quoi. Il dit, hein, et il est un parallèle entre l'Église, bien sûr, et le foyer, et la maison. En Éphésiens 2, 19, il dit ceci, il dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Hein. » Il parle de l'Église comme étant la, la maison de Dieu. Donc on voit ici le, l'aspect, déjà, comment est-ce que ça se gère? Ça doit se gérer non pas comme une entreprise, mais plutôt comme une maison dans laquelle il y a un père qui est un chef de famille, etc. Donc c'est, on voit déjà la, la nature de la direction que Dieu attend concernant son Église. Pas des gens avec voilà hein, des directives d'entreprise, mais plutôt qui gèrent avec les relations qu'on peut trouver dans une famille. Donc la conduite de l'Église est subordonnée à celle du foyer. Et marquez que les diacres aussi hein, sont, sont soumis à la même verset 12. Si vous regardez 1 Timothée 3, verset 12, il est dit « Les diacres doivent être aussi maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. » C'est exactement la même chose hein, que l'on trouve ici. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, tout chrétien, tous les chrétiens sont soumis à ce standard familial exemplaire. Hein. Si on lit Éphésiens chapitre 5, par exemple, ou l'apôtre, et 6, hein, et puis Colossiens chapitre 3 et 4, l'apôtre Paul donne beaucoup de directives sur le domaine, dans le domaine domestique. Hein, comment le mari doit aimer sa femme, comment les enfants doivent être obéissants aux parents, comment le père ne doit pas irriter les enfants, comment, etc. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont notés, qui sont bien là, qui montrent que ce qui est dit ici concerne en fait tout le monde. Alors je voudrais souligner une chose, premièrement, c'est l'importance du foyer, hein, quand on lit ce passage. Le foyer, c'est un formidable laboratoire. Hein. La maison est un formidable laboratoire. C'est un lieu de constante relation. Tu vois, hein, on est en relation les uns avec les autres. Et c'est là où les relations sont les plus proches, n'est-ce pas? C'est là où elles sont les plus vraies. Les plus grands côtoient les plus petits. D'accord? Dans ce foyer-là. Ici, à l'église, parfois, les plus grands côtoient les plus grands. Il arrive que les plus jeunes côtoient les plus jeunes. Hein? Et il arrive que, parfois, ça ne se mélange pas trop. Hein? On aimerait que ça se mélange plus. Il arrive que ça ne se mélange pas trop. Parce que bon, on est vite pris par les affinités, mais dans un foyer, les plus grands côtoient les plus petits. Et il y a donc interférence dans ces relations. C'est un lieu où l'on est soi-même aussi, le foyer. À la maison, on ne trompe personne. On ne peut, on peut facilement vous prendre, hein, comme on dit, hein, au défaut de la cuirasse. Hein, quand vous êtes dans le foyer. À la maison, la vigilance baisse parfois, n'est-ce pas? À l'église, on peut avoir une certaine retenue, on fait attention, on se contrôle un peu. Mais à la maison, avec les siens, hein, on se relâche un peu. Et donc, le vrai caractère fait surface quand on est au foyer. Et donc toute la palette des humeurs se manifeste sans masque, on pourrait dire, et sans même aucune, parfois, hein, aucune retenue. Et donc le foyer familial est un véritable laboratoire pour éprouver tous les principes bibliques que l'on peut énoncer parfois très théoriquement depuis un pupitre. Hein. Et c'est dans le laboratoire familial qu'on peut tester de la véracité de ce que l'on de ce que l'on dit, de ce que l'on prêche, de ce que l'on partage aussi, hein, entre nous les uns avec les autres. Le foyer, c'est le laboratoire qui éprouvera la réalité, de savoir si Christ est vraiment en nous. Et je dis que dans ce laboratoire, on trouve des tubes à essai de la soumission, de l'amour, de l'obéissance, de la pureté, de la sainteté, de la maîtrise de la langue, de la lenteur à la colère, de l'absence de paroles équivoques. Si on veut savoir des choses, c'est là qu'il faut aller voir si on arrive à mettre ces choses en pratique. Donc le foyer est un formidable laboratoire, mais le foyer est aussi le premier champ missionnaire. Lorsque Jésus, rappelez-vous ça, lorsque Jésus a guéri cet homme dans Marc chapitre 5, qui avait je crois que c'est lui qui vivait dans les sépulcres et puis et qui se lacérait, etc. En Marc 5 versets 18 et 19, quand il l'a guéri, il a souhaité rester avec Jésus. Et Jésus a dit non. Savez-vous ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit. Et comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Et Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. C'est-à-dire, voilà, va d'abord auprès des tiens, parce que c'est là que se situe le premier champ missionnaire. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, par exemple, 1 Timothée 5, verset 8, si vous regardez juste à côté, là, non, vous êtes presque là, 1 Timothée 5, verset 8, il dit, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. » D'accord ? Donc, il ne sert à rien de montrer du soin pour ceux qui sont à l'extérieur, pour les gens que l'on a à l'église en tout cas, si on n'en montre pas dans son foyer. D'ailleurs, si on n'en montre pas dans son foyer, ce que l'Écriture nous dit ici, c'est que le soin que l'on tente de montrer à l'église n'est pas du vrai soin. C'est une façade, c'est quelque chose que l'on cherche à faire en apparence. Et donc il faut qu'il y ait le soin dans le foyer. Et puis, pour dire que le foyer, c'est la première sphère d'influence pour tout ministère. Et puis, la gestion du foyer, donc selon ce qu'on voit ici dans ce passage de 1 Timothée, qualifie ou disqualifie pour le service. Et c'est ce que le verset 5 que nous avons lu dit. Il dit, en effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? C'est une question, on pourrait dire, rhétorique. L'apôtre Paul nous pose la question. Si quelqu'un ne peut pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Alors, c'est quoi la réponse ? Eh bien, il ne peut pas. C'est la réponse qu'il attend ici. Il ne pourra pas. Il ne dit pas de dire comment c'est possible. Il dit que ce n'est pas possible. Si on ne peut pas faire là, dans le foyer, on ne pourra pas faire. Même si on pense qu'on pourra, on ne pourra pas faire. Et c'est le Saint-Esprit qui le dit, qui nous le dit ici. Et donc le foyer est important. C'est quoi que la première vérité que l'on tire de ça, c'est que notre foyer, chers frères et sœurs, est quelque chose de très important. Et quelqu'un a dit ceci, il a dit, Dieu porte un intérêt particulier au foyer. Lorsqu'il a une tâche importante à accomplir, il commence par chercher et préparer un foyer. Lorsqu'il voulut libérer Israël de l'Égypte, il chercha un foyer et trouva Amram et Jochébed. Par eux, il éleva Moïse. Lorsqu'il voulut libérer Israël des mains des Philistins, il chercha et prépara un foyer. Il trouva Manoa et sa femme. Par eux, il éleva Samson. Alors que le réveil et les feux sacerdotaux s'éteignaient en Israël à l'époque d'Élie, avant que la lampe du temple ne soit éteinte, Dieu chercha un foyer et trouva Elkana et Anne. Par eux, il éleva Samuel. Lorsque toute l'humanité était tombée, perdue et condamnée à mourir sous la malédiction du péché et les pas de Satan, lorsque Dieu voulut donner un sauveur à l'humanité, il chercha et prépara un foyer. Il trouva Joseph et Marie. Par eux, il éleva un homme dont le nom est Jésus. Je trouve que c'est assez bien dit cela. Oui. Donc c'est important pour nous de considérer, enfin de voir que la Bible donne une importance à notre foyer. Que ce soit un foyer monoparentale, que ce soit un foyer avec un papa, maman, des enfants, etc. Dieu est, donne une importance à ce foyer. Et on doit faire régner l'Évangile. L'Évangile doit triompher dans ce foyer. Donc ça, c'est la première chose que je voulais souligner. La deuxième chose ici, plus précisément, donc on se rapproche de notre texte ici, c'est la direction du foyer. L'apôtre Paul dit, il faut, en parlant de l'ancien, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Que veut dire ici « diriger » hein? Alors, « diriger », ça veut dire « se tenir devant ». Le mot veut dire « se tenir devant » ou « être à la tête de ». Ce mot est parfois traduit par « présider ». Par exemple, dans Romains chapitre 12, verset 8, il dit que « celui qui donne le fasse avec libéralité et que celui qui préside le fasse avec zèle. » Et le président du culte, c'est quoi? Le président, c'est celui qui se tient devant. Pas pour dire « regardez-moi », mais celui qui se tient devant pour diriger. C'est ça le sens. Et donc, il dit ici que l'ancien, en ce qui concerne l'ancien, il faut qu'il dirige bien sa propre famille. Donc, il est aussi traduit en Tite, chapitre 3, verset 14, par le verbe « pratiquer ». Ici, par exemple, l'apôtre Paul parle du fait de soutenir, de pourvoir aux besoins de deux docteurs, qu'il appelle Zénas et Apollos. Et il dit ceci à l'Église, il dit « Aie soin de pourvoir aux besoins de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. » C'est-à-dire, il faut les soutenir, financièrement, pour tous les moyens. Et puis, il ajoute au verset 14, il dit « Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer. » Et là, c'est le mot qui est traduit par « diriger » ici, chez nous. « Il faut que les nôtres apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. » Donc, les bonnes œuvres à pratiquer ici consistent, on le comprend, à prendre soin financièrement, matériellement, de Zénas et d'Apollos. C'est ce qu'il appelle pratiquer de bonnes œuvres. Et donc, on pourrait dire que aussi dans le sens de diriger, il y a le sens de présider, mais il y a le sens de prendre soin, de pourvoir aux besoins. Et on le voit bien dans le parallèle que l'apôtre Paul établit entre l'église et la maison quand il dit, si quelqu'un ne sait pas quoi, diriger sa propre maison, sa maison, comment prendra-t-il soin? Donc on voit ici, ça veut dire quoi diriger? Ça veut dire prendre soin. Diriger, c'est aussi prendre soin. Diriger, c'est pas se mettre et puis dire, voilà, je donne des ordres. Diriger, c'est, oui, présider, gouverner, quelque peu dans un certain sens, mais se tenir à la tête, mais aussi le faire d'une manière où on va chercher à répondre aux besoins. On est soucieux de. C'est ça que cela veut dire. Et donc, Paul aussi qualifie l'ancien, la direction pardon, de l'ancien. Il dit il doit diriger, pas simplement diriger, mais il doit diriger bien. Il doit le faire de manière convenable. C'est le mot qui est traduit par « bien » ici, est traduit par « convenable » un peu plus bas pour les diacres. Quand il dit au verset 13, il dit « car ceux qui remplissent convenablement leur ministère », on aurait pu dire, peut-être que vous avez dans votre Bible, qui remplissent bien leur ministère, hein? C'est le même mot ici. Donc il dit, l'ancien dirige convenablement, pas de manière désordonnée. Ça doit être raisonnable, ça doit être bien, ça doit être beau. Il y a même un terme de beauté dans ce qui est dit ici. L'ancien doit diriger donc sa famille de manière convenable et raisonnable. Et donc il dit ici, il faut qu'il dirige bien, et je rajoute, sa propre maison. Pas celle des autres. Sa propre maison. La maison, ça englobe quoi? Ça englobe plus que la famille. Et certainement à l'époque, vous rappelez, il y avait dans la maison pas que monsieur, madame et les enfants. Il y avait aussi des serviteurs, des esclaves. Et on appelait ça la maisonnée, la maison. Et donc, tout ce en fait qui est sous sa charge, il doit bien le diriger. C'est ça que cela suggère ici. Et donc, l'ancien doit être un bon intendant aussi. Il doit diriger, gérer l'argent, il doit gérer le foyer aussi spirituellement. Et il doit gérer spirituellement les personnes qui sont sous sa charge. C'est une responsabilité qui incombe à l'ancien et que l'on va chercher à savoir s'il l'a rempli ou pas avant qu'il ne devienne un ancien. Autrement dit, c'est une responsabilité de père de famille avant d'être une responsabilité d'ancien. Parce qu'avant d'être, il est un père de famille. Et donc, l'Écriture nous dit ici, voilà comment un père de famille, il doit pas demander, voilà comment simplement un ancien doit dire, voilà comment un père de famille doit être trouvé au moment où on s'apprête à choisir. Donc c'est une responsabilité pour chaque homme ici aussi, hein, qui a un foyer, de bien diriger, comme c'est écrit ici, le foyer, en cherchant à prendre soin spirituellement du foyer, à exercer le vrai leadership, hein, dans le foyer. C'est à l'homme que revient la responsabilité d'exercer le leadership dans le foyer à tous les niveaux, à tous les niveaux. Et spirituellement, particulièrement, il ne faut pas qu'il oublie cette responsabilité. Et il doit bien le faire, il doit chercher à prendre soin de tout ce que Dieu a mis sous sa charge, à prendre soin de sa femme, à l'aimer, on avait vu ça la dernière fois, mais aussi de ses enfants et de tous ceux que Dieu met avec lui. Et puis, je continue, donc il dit qu'ils tiennent, deuxième aspect ici, qu'ils tiennent ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Donc c'est un domaine particulier ici, hein, que l'apôtre Paul souligne ici, c'est le domaine du rapport avec les enfants. Parce que c'est un domaine qui est difficile. Dans la relation que les parents, qu'il y a dans le foyer, il y a des difficultés des fois entre la relation mari et femme. Mais il y a aussi des difficultés entre parents et enfants. C'est quelque chose qui est assez difficile parfois. Mais alors l'apôtre Paul dit ici, il faut qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que Paul entend par la soumission des enfants ? Et puis, de quels enfants est-ce qu'il parle ? Les ados, pré-ados, ou quand ils sont adultes, de quoi il parle ? Et si on regarde, si vous vous souvenez du texte qu'on a lu dans Tite, je vous le relis juste le verset 6, il dit « S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle. » Ici, voilà comment il dit. Et concernant les diacres, il dit, verset 12, les diacres doivent être mariés d'une seule femme, bien diriger leurs enfants aussi, hein, et leur propre maison. Alors, si on prend le texte de Tite, hein, certaines personnes traduisent, par exemple, qu'il ait des enfants fidèles par qu'il ait des enfants croyants. D'accord? Parce que le mot qui est traduit par fidèle peut être compris comme fidèle, mais aussi comme croyant, c'est-à-dire chrétien, converti parfois. Hein? Et certaines traductions traduisent comme ça. Par exemple, Second 21 traduit Tite 1, verset 6, traduisent comme ça, « Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants soient croyants et ne soient accusés ni de débauche ni insoumis. » Et Parole de vie le dit aussi comme ça, il dit « Ces enfants doivent être chrétiens et on ne doit pas pouvoir les accuser de se conduire mal ou de désobéir. » Donc c'est un choix qui a été fait, mais les deux, fidèles ou croyants, sont possibles d'utiliser ici. Et donc, ce qui doit normalement favoriser le choix, c'est le contexte, hein, dans lequel l'apôtre Paul dit cela. Et quand on regarde bien probablement dans Tite 1, verset 6, en tout cas en particulier, ce qu'il dit après vient éclairer ce qu'il entend probablement par le mot fidèle, qui est traduit ailleurs par croyant. Il dit s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, et ni rebelle. On pense que le fait de dire qu'il ne soit accusé ni de débauche ni rebelle vient quelque part borner ce qu'il est en train de dire, définir ce qu'il est en train de dire par enfant fidèle. D'accord? Parfois on peut se demander pourquoi mettre croyant, converti et derrière ni accusé de débauche ni rebelle. On pourrait dire s'il est croyant, c'est qu'il n'est pas ces choses-là. Et donc on peut soutenir ici que probablement ce que Paul veut dire ici, c'est des enfants qui sont soumis, qui ne sont pas dans une rébellion ouverte, qui ne vivent pas de manière constante et dans la débauche. Hein. Par exemple, vous avez lu le texte de l'histoire des deux fils d'Élie ce soir. C'est intéressant de considérer cette histoire. On voit deux fils qui vivaient vraiment à la fois dans une rébellion, dans un mépris ouvert des offrandes de Dieu. Le texte dit qu'ils se rendaient coupables de grands péchés parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et puis qu'ils vivaient dans la débauche sexuelle aussi. Hein. Vous avez lu cela. Et donc, certainement, on peut penser à des enfants comme cela. Et ce que le prophète vient, quand il vient voir, l'homme de Dieu vient voir Élie, il lui fait quel reproche? Il lui dit, d'où vient que tu honores tes fils plus que l'Éternel, plus que Dieu, hein? Donc il n'a pas repris ses fils. Alors bien sûr, on a l'impression qu'il les reprend un petit peu, hein, quand on lit le texte, mais il les a pas véritablement repris, puisque le serviteur de Dieu qui vient le voir lui dit, d'où vient que tu honores tes fils plus que Dieu. Donc c'est le reproche qu'il lui fait, c'est qu'il n'a pas réprimandé ses fils qui agissaient de la sorte. Donc des foyers où les enfants vivent de cette manière-là, l'apôtre Paul dit, certainement, on ne peut pas proposer, choisir quelqu'un comme ancien s'il n'a pas la possibilité de corriger dans ce sens ses enfants, au point qu'ils vivent sous son toit dans une telle attitude d'infidélité et de rébellion. Il parle, bien sûr, je crois ici, des enfants qui sont sous le 3, hein, parce que il dit qu'il doit diriger bien sa propre maison, par deux fois. Donc ceux qui sont avec lui dans une, on pourrait dire, une proximité relationnelle avec lui. Il dit il faut qu'il les tienne, le mot tenir ici c'est les avoir, les posséder. D'accord? Et donc on suppose bien qu'il parle d'enfants qui sont dans sa proximité relationnelle, d'une certaine manière, sous sa responsabilité et sous son autorité. Si les enfants sont adultes et chez eux, ils ne sont plus dans sa propre maison. Ils vivent indépendamment des parents. Et les parents n'ont pas, le père en tout cas, n'a pas la possibilité d'imposer quoi que ce soit aux enfants. Mais dès lors que les enfants, même adultes, reviennent et mettent le pied dans le foyer, c'est la loi du foyer qui doit régner, la loi de l'évangile qui doit régner. Si je parle le cas où il y a des enfants qui ne suivent pas du tout. Alors un exemple, que faire si notre fille ou notre fils vit avec quelqu'un sans s'être marié et vient sous notre toit? C'est une question parfois à laquelle on a eu à répondre. Viens sous notre toit. Est-ce que nous allons faire régner la vérité de l'Évangile ou est-ce que nous allons fermer les yeux en acceptant qu'il dorme sous notre toit, ensemble sous notre toit? C'est une question, hein, à laquelle il faut avoir réfléchi parfois. On peut dire, oh, mais ce sont nos enfants quand même, on ne peut pas. Est-ce qu'on le ferait pour quelqu'un d'autre? On dit, on ne ferait pas pour quelqu'un d'autre, mais nos propres enfants. Mais qu'est-ce que l'Évangile dit? D'accord? Il dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. D'accord? Dès lors qu'un lit, fût-il chez moi, devient un lit conjugal, il doit être exempt de souillure. Je dois faire en sorte qu'il soit exempt de souillure. Donc si je ne dis rien, je laisse faire, je participe à cela. Et donc, quand il dit que il faut qu'il tienne, je pense, hein, cet enfant dans la soumission d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il doit être capable de dire ici, c'est comme cela que nous marchons avec le Seigneur. Si vous ne pouvez pas accepter ça, vous ne pouvez pas dormir chez nous dans cet état-là. Je crois qu'il y a cette idée-là de pouvoir faire respecter la loi de Dieu, faire en sorte que la loi de Dieu soit respectée. Ça ne veut pas dire que ça va changer le cœur ou l'attitude des enfants, mais ça veut dire que sous son toit, dans son propre foyer, l'Évangile doit triompher. Et la sainteté de l'Évangile aussi doit triompher. Je ne sais pas si c'est assez clair si j'expliquais. En tout cas, je pense qu'il y a surtout cela. Une autre chose que je voulais rajouter, si on dit que les enfants doivent être croyants, ça fait peser une responsabilité assez particulière quand même sur le père. Ça veut dire qu'il devient responsable du salut de ses enfants. Or, Dieu est souverain en matière de salut. D'accord? Donc je ne peux pas. Je peux. Le père doit prêcher l'Évangile. Il doit faire vivre évangéliquement, si j'ose dire, le foyer. Mais on n'a aucun pouvoir sur le cœur de quiconque. Hein? Sur le cœur, en tout cas pas sur le cœur de nos enfants. Et puis, donc on peut pas, ça fait peser une responsabilité lourde, voilà. Et puis les gens qui ont des enfants qui marchent qui sont croyants, pourraient se glorifier et dire, ben c'est grâce à moi. Ton enfant ne marche pas dans la vérité parce que tu n'as rien fait pour. Moi, vous voyez ce que je veux dire? On peut tomber dans ce travers-là. Et autre chose encore, on peut faire peser d'une manière inconsciente une grosse culpabilité sur un enfant. Un enfant qui n'est pas ancien, on pourrait lui dire, tu vois, à cause de toi, je ne peux pas être ancien. Dans l'église, dépêche-toi de te convertir. Hein? On peut agir comme ça, hein? Mettre une espèce de pression inconsciente sur nos propres enfants, parce qu'on aspire à quelque chose, voyez. Et donc, je crois que, pour ces raisons, je crois que le texte ne dit pas vraiment qu'il faut que ces enfants soient croyants. Si on prend une famille, un couple pastoral, un missionnaire, c'est pas moi, les enfants sont en bas âge, comment fait-on? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être anciens avant que les enfants ne grandissent et qu'ils ne se convertissent, ou est-ce que ça veut dire que quand les enfants ont grandi, ils peuvent être anciens s'ils sont tout petits, parce qu'ils ne sont pas encore... Puis une fois qu'ils ont un certain âge, il faut qu'ils se convertissent, mais à quel âge? Où est-ce qu'on fixe l'âge? Où ils doivent basculer de... Vous voyez, ça devient tout de suite assez complexe, assez compliqué. Donc je crois que ce qu'il souligne ici, c'est vraiment la fidélité, et puis l'important n'est pas mis sur les enfants, il est mis sur le père. D'accord? C'est lui qui doit tenir. Donc c'est ce qu'on regarde, c'est sa capacité à tenir dans la fidélité ses enfants. Même s'ils ne sont pas au Seigneur, se détournent. Mais comment est-ce qu'il les tient? Comment est-ce que le foyer devient un foyer qui demeure un foyer chrétien, ou est-ce que maintenant c'est parti à la débandade parce que c'est l'inconverti ou les inconvertis du foyer qui mènent le foyer? Voilà, donc ça c'est une chose qu'il faut vraiment considérer, je crois. Et je vais donc terminer parce que je veux pas prendre trop de temps. Juste pour dire que on voit quand même que c'est que dans ce que nous avons lu, que l'échec du leadership familial, c'est un obstacle au leadership ecclésial, si j'ose dire, de l'église, d'accord? Si on échoue familialement, il faut tout faire pour encourager, à remonter, etc. Mais on ne peut pas délibérément dire c'est pas grave, on va choisir quelqu'un qui a des difficultés dans son foyer, à gérer le foyer pour être dans l'église. Parce que c'est autre chose. Le foyer, c'est une chose, l'église, c'est autre chose. Pas du tout. C'est très important ici de considérer ça. Et ce qu'en Paul dit, est-ce si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? D'accord? Donc, chacun doit vraiment considérer comment son foyer est géré. La difficulté de l'éducation c'est qu'on ne transmet pas en général ce que l'on veut transmettre, mais on transmet ce que nous sommes. Et donc c'est pour ça que le foyer est important, parce que dans le foyer, comment sont les enfants, c'est comment nous sommes un petit peu, parfois. Je ne parle pas dans leur caractère, mais dans la manière avec laquelle le foyer est géré. Okay. Comment, ce qu'ils respectent, etc. Donc c'est très important de souligner ça. Quand nous portons un message, vient se superposer à ce message-là ce que nous sommes. Dans l'Église, ça ne pose pas souvent beaucoup de problèmes, parce qu'on ne sait pas forcément exactement, on ne connaît pas parfaitement comment sont les gens. Dans le foyer, le message peut être très vite brouillé, parce que nos enfants entendent pas seulement ce que nous disons, mais ce que nous sommes. D'accord. Et donc, c'est pour ça que quand on parle, souvent quand on parle à quelqu'un, à un inconnu, il n'a pas de mal. Tout ce qu'il entend, c'est ce que nous lui disons, avec les mots. D'accord. Mais si vous avez une certaine vie dans le foyer, que vous parlez à votre femme ou à vos enfants, ils entendent autre chose que ce que vous dites. Ils entendent ce que vous êtes. Et c'est pour cela que je pense que l'Écriture souligne ici l'importance du foyer. Comment on est dans le foyer doit être considéré avant de devenir responsable dans la maison de Dieu. Et puis, je voulais dire que nous ne devons pas dissocier l'Église et la maison. L'ancien, de manière générale, et tout enfant de Dieu, ne doit pas être un agent double qui présente une vie à l'Église et notre vie à la maison. Parfois, on a tendance à faire des dichotomies comme ça. On dit, mais ça, c'est l'Église. Pour l'Église, je fais des efforts. L'Église sera. Et puis, une fois que je suis à la maison, voilà, moi, je n'ai pas le temps avec les autres, etc. Ils se débrouillent, etc. Non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Et je pense que si Dieu prend le parallélisme entre Église et maison, c'est qu'il veut nous faire sentir qu'il n'y a pas de différence. Et un commentateur dit ceci, il dit, le lien étroit que Paul établit entre la maison et l'Église est surprenant. Il dit, tout père chrétien ne répond pas nécessairement aux conditions pour être nommé ancien dans l'assemblée, mais il est censé exercer les mêmes fonctions que l'ancien dans sa propre famille. C'est-à-dire que quand on lit le texte ici, il faut vous dire, en tant que père, voilà ce que je dois exercer, accomplir dans ma propre famille. Peut-être on ne sera pas ancien, mais ça, ce n'est pas grave. Ce qui est le plus important pour chacun d'entre nous, et particulièrement en tant que père, c'est de remplir pleinement les responsabilités de leadership spirituel que Dieu nous confie dans notre propre foyer. De gérer nos enfants, de les enseigner dans la vérité de la parole de Dieu, de prendre soin d'eux, de prier pour eux. Toutes ces choses sont d'une extrême importance. C'est ça que le passage nous dit premièrement. Et il dit que quand les gens vivent comme ça, alors il y a potentiellement la possibilité de devenir un ancien. Mais être un ancien n'est pas une fin en soi. Jamais. Quand prêcher n'est pas une fin en soi. Ce qui était une fin en soi, c'est de devenir un véritable adorateur et enfant de Dieu qui marche en obéissance. Que le Seigneur nous conduise. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole. Nous te demandons de nous aider à considérer ces choses encore à la lumière de l'Esprit Saint. Que tu puisses nous faire vivre ces vérités. Seigneur, que nous ne soyons pas tant désireux d'occuper une fonction que nous passions à côté de ce qui est essentiel. Je te prie, oui, c'est une chose excellente que d'aspirer à la charge d'évêque, comme ta parole le dit. Mais ce que tu nous demandes ici, c'est que chacun de nous soit trouvé fidèle dans ce que tu lui confies. Aide-nous à vivre ta parole dans notre foyer. Que nous soyons dans un foyer monoparental, que nous soyons seuls, que nous soyons avec des enfants ou pas. Seigneur, que tu nous donnes de mettre ces critères que nous avons lus, que nous avons vus dans ce passage, que tu nous donnes de les mettre en pratique dans notre propre vie. Et puis que nous puissions vivre une vie qui t'honore. Sois avec chacun de nous. Là où il est, Seigneur, dans ses besoins, dans ses questions, dans ses aspirations. Et donne-nous, Seigneur, vraiment des cœurs qui vivent dans la joie de l'obéissance à ta parole. Amen.